Après avoir multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes ni les enfants, Jésus renvoie ses disciples sur l'autre rive du lac, où il les retrouvera. Lecture de Matthieu 14, les versets 24 à 33. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Et Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marche sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Le sport est bon pour la santé,
vous le savez.
D'ailleurs, vous pratiquez tous un sport, n'est-ce pas ? Il y a tellement de disciplines que, théoriquement, chacun peut trouver la sienne. Cependant, certains et certaines trouvent que c'est un peu plat. Et puis, ils se tournent vers des sports extrêmes. C'est-à-dire des sports qui entraînent une dangerosité, une extrême adrénaline. Il faut que ça... Il se passe quelque chose, quoi. Généralement, ça se passe bien. Mais parfois, on prend un peu trop de risques. Ou on est mal préparé. Et on se fait une belle frayeur. Bonjour les montées d'adrénaline. Mais vous le savez, il n'est pas nécessaire de pratiquer un sport extrême pour se faire peur. De nombreuses situations dans notre vie quotidienne nous mettent devant des peurs qu'on aimerait éviter. Peurs génératrices de stress, etc. Vous l'avez deviné, ce matin, j'aimerais vous parler de la peur. Vaste sujet que les psychologues ou psychiatres traiteraient certainement mieux que moi. Je vais quand même effleurer le sujet... Ce sujet qui nous touche tous. Plus exactement, j'aimerais réfléchir avec vous sur ce qu'en dit la Bible. Comment la parole de Dieu aborde le sujet et peut nous venir en aide. Tout d'abord, définissons ce qu'est la peur. Alors, le petit Robert nous dit que c'est un phénomène psychologique à caractère affectif marqué qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé, d'une menace. Je le redis. Phénomène psychologique à caractère affectif marqué, qui accompagne la prise de conscience d'un danger réel ou imaginé, d'une menace. Ce phénomène peut se traduire par... l'affolement, l'alarme, l'alerte, l'angoisse, l'appréhension, la crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, l'inquiétude, la terreur, et on pourrait continuer comme ça. La peur se caractérise par ses origines, par ses effets, son intensité et sa durée. Il y a des peurs qu'on pourrait qualifier d'utiles et d'autres qui peuvent nous miner, voire même nous détruire. Parlons d'abord des bonnes peurs. Oui, ça existe. Citons par exemple la crainte de Dieu, qui, vous le savez, est le début de la sagesse. Puis aussi, il y a la crainte des parents, qui est utile et nécessaire. Et dans ce cas, cette crainte est plus synonyme de respect. Il y a aussi celles qui vous font vous concentrer sur ce que vous faites et qui vous aident à réussir. Le stress de la compétition sportive, le trac de l'artiste qui entre en scène, la peur de mal faire, la peur d'échouer qui vous invite encore plus à travailler. La peur aussi de blesser quelqu'un par des paroles maladroites. La peur d'arriver hors délai qui pousse les athlètes et les coureurs à se surpasser. La peur du gendarme qui vous rend attentif au respect du code de la route et augmente la sécurité de tous. Mais il y a aussi les peurs qui nous agressent et dont on se passerait bien volontiers. Le stress au quotidien que peut subir le personnel de la part de sa hiérarchie dans certaines entreprises, par exemple, qui peut aller jusqu'au suicide. Les peurs chroniques qu'on porte en soi, les phobies qui peuvent vous handicaper. Il y a naturellement la peur de la maladie, la peur de la mort, bien sûr, et de la douleur. Il y a la peur de la guerre, la séparation, de la déportation. Si vous lisez Porte ouverte ou Le fil rouge qui nous présente nos frères persécutés, vous avez pu entendre le témoignage de ces gens terrifiés, terrorisés, qui pour certains ont vu leur dernière heure arriver. Et puis nos chaînes d'information qui nous montrent sans arrêt des images insoutenables de la guerre d'Ukraine ou d'ailleurs. Mais il y a aussi les grandes peurs collectives. Les Gaulois, paraît-il, avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Et puis, plus près de nous, il y a eu le passage de l'an 2000, qui a provoqué aussi bien des angoisses à plusieurs. On pourrait aussi évoquer la peur de passer à côté du bonheur, d'avoir choisi le mauvais chemin. On pourrait ainsi s'attarder sur les différentes peurs, mais ce n'est pas mon propos ce matin. Non, la question qui se pose plutôt et de savoir s'il y a un moyen de supprimer ces peurs, sinon de les atténuer. Peut-on les maîtriser? Que peut-on faire? Mais que dit l'Écriture? Le chrétien et la peur, ou la peur et le chrétien. Une première question que certains, peut-être, se posent, un chrétien peut-il ou doit-il avoir peur? Que constatons-nous? La première chose, c'est que la peur, c'est la conséquence du péché. C'est ce que nous découvrons dans Genèse 3. Après leur désobéissance, au verset 7, il nous dit que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils se font des ceintures de feuilles, de figuiers, et quand ils entendent la voix de l'Éternel Dieu, ils se cachent loin de sa face, au milieu des arbres du jardin. Et au verset 9, l'Éternel appelle l'homme. Il lui dit, « Où es-tu ?» Il répondit, « J'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Même les disciples ont eu peur. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il est même précisé que dans leur frayeur, les disciples poussèrent des cris. Et Pierre, allant à la rencontre de Jésus, marchant sur les eaux, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Les disciples venaient pourtant d'assister à plusieurs miracles de Jésus. Pierre parlait à Jésus lorsqu'il s'avançait sur les eaux dans sa direction. Et pourtant, ils eurent peur. Et les passages qui relatent la peur sont très nombreux dans la Bible. Tenez, lisons le psaume 55, psaume de David. « Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. J'erre çà et là dans mon chagrin et je m'agite. » À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant, car il m'accable de maux, il me poursuit avec colère. Mon cœur tremble au fond de moi, et les terreurs de la mort fondent sur moi. La peur et l'épouvante m'assaillent, et la terreur m'envahit. Et que dire des prophètes, dont Élie, dont Pierre nous a fait la chronique de toute sa vie. Élie, craignant pour sa vie, qui tombe dans une dépression et s'enfuit. Et que dire de l'apôtre Paul, dont la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, moins qu'on puisse dire. Dans 2 Corinthiens 8, il nous parle de la détresse extrême qu'ils ont connue en Asie. Il dit « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point où nous désespérions même de rester en vie. » Et Pierre, n'est-ce pas la peur qui l'a amené à renier Jésus, son maître ? Et nous ? Et nous ? Nous qui sommes chrétiens, n'avons jamais eu peur ? Qui n'a jamais peur ici ? Ainsi donc, si la peur est inscrite dans notre nature, que peut-on faire ? Ou au moins la réduire ? Chrétien ou non, on fait tous partie de la nature humaine. Quelle attitude devons-nous avoir ? Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est simple, hein. Soyons prudents. C'est un conseil de bon sens, c'est un conseil de sagesse. Évitons de nous mettre dans des situations qui nous dépassent. Ne faisons pas comme Pierre, dont le caractère impétueux lui fait même oublier les obstacles et l'entraîne dans une aventure qui aurait pu très mal se terminer sans l'intervention de Jésus. Le deuxième conseil, recherchons en priorité ce qui est important. Lecture de Matthieu 6, 25-34, c'est Jésus qui parle. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant de durée à sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez pas donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et sa justice, la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Ce qui prime, c'est la vie. La nécessité de la vie ont leur importance, mais la recherche de la volonté de Dieu doit l'emporter sur toute autre considération. Troisième conseil, mettons-nous en sécurité. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Comment un enfant réagit-il quand il se sent en danger ? Il appelle ses parents, maman ! Comment un chrétien réagit-il quand il se sent en danger ? Il se tourne vers son Père céleste dans un murmure ou dans un cri. Qu'a fait David après avoir crié à Dieu ? Nous lisons la suite du psaume 55, où le verset 6 nous disait que la peur et l'épouvante m'assaillent et la terreur m'envahit, ce que disait David. Et un peu plus loin, au verset 17, David dit « Quant à moi, je crie à l'Éternel, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leurs assauts et me rendra la paix. » Et Paul, que fait-il ? Nous disons la suite de 2 Corinthiens, où il disait sa détresse extrême. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Quelles sont les bases de cette sécurité ? Notre sécurité repose d'abord sur la nature de Dieu. Il est le Très-Haut qui règne sur toute chose. Il est le Tout-Puissant qui intervient pour le salut. Il est à la fois l'abri qui protège et l'ombre qui rafraîchit. Et notre sécurité repose ensuite sur notre foi personnelle. Je me confie en Dieu parce que je le connais et que j'ai confiance en lui. Il donne l'assurance à celui qui se confie et la sécurité face à la menace du danger. Notre sécurité repose aussi sur la fidélité de Dieu. Nous pouvons compter sur lui en tout temps, en toutes circonstances, et il tient ses promesses. Quatrième conseil, souvenons-nous. Il y a un peu d'écho. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 1, Moïse rappelle à son peuple la conquête du pays que Dieu leur a donné. Je vous ai dit, au verset 20, je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi. Monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Puis il leur rappelle comment ils ont envoyé 12 hommes, un par tribu, pour explorer le pays et le rapport qu'ils firent à leur retour. Et ce récit se trouve détaillé dans les chapitres 13 et 14 des Nombres. Ils font donc ce rapport à Moïse, à Aaron et au peuple. En substance, ils disent « Ben, il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi. » Le bon, ben, c'est un beau pays. C'est un beau pays que l'Éternel nous donne. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Et donc, il montre une branche de vigne avec son raisin, des grenades et des figues. Mais il y a le mauvais. Ben, le mauvais, c'est que le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Et surtout, nous y avons vu les enfants d'Anak, c'est-à-dire les géants. Et pour mieux impressionner le peuple, il rajoute « Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Et Moïse leur rappelle comment ils refusèrent d'entrer dans ce pays et donc désobéir à l'Éternel. Comment même ils murmurèrent contre Moïse, Aaron et aussi contre Josué et Caleb qui faisaient partie des explorateurs et qui étaient favorables, eux, à la prise du pays puisque l'Éternel était avec eux. Et donc Moïse leur dit « Je vous ai dit, ne tremblez pas, n'ayez pas peur d'eux, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte et au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée maintenant. » Plusieurs d'entre nous sommes peut-être dans cette situation, dans la situation de ces personnages de ce récit. Et nous sommes confrontés à deux réalités. D'un côté, la peur de l'inconnu, avec de réelles difficultés qui pointent à l'horizon. Et de l'autre, la connaissance que nous avons de Dieu. Voulons-nous compter uniquement sur nos propres forces et nous décourager? Et c'est malheureusement notre fâcheuse tendance à vouloir nous en sortir tout seul. Ou bien, conscients de nos limitations, nous remettre à notre Père Céleste qui prend soin de nous et veut nous accompagner comme il l'a promis. Je vous lis le feuillet du 14 juin que j'ai trouvé édifiant. Situation réelle. Athènes, 14 juin 1985. John et Phyllis, un couple chrétien, fêteront dans quelques jours leur anniversaire de mariage. John, commandant du bord 847 de la TWA, doit encore effectuer un vol dans la journée. Mais peu après le décollage, deux pirates de l'air détournent le Boeing. John est retenu en otage à Beyrouth. Au début, Phyllis, seule dans sa chambre d'hôtel, n'arrive pas à prier. Mais elle passe beaucoup de temps à lire la Bible, à la recherche de paroles appropriées à la situation. C'est alors qu'elle lit Deutéronome 31, verset 6. « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer par eux. Le Seigneur, ton Dieu, marche lui-même devant toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » John, de son côté, lui écrira une lettre le 23 juin. Sans savoir quand elle le lira. Il notera en post-scriptum « J'ai trouvé ce matin un verset qui répond précisément à notre situation. » Deutéronome 31, 6. Plus tard, il racontera « Nous étions à des milliers de kilomètres, l'un de l'autre, et pourtant nous avions tous deux reçu le même message, réconfortant et encourageant de l'Écriture. » C'était un des précieux cadeaux que Dieu nous aidait, qui nous aidèrent à traverser cette période difficile. Et le 1er juillet, en se serrant dans les bras sans un mot, tous deux communiquent d'âme à âme et d'esprit en esprit. Voilà un très beau témoignage. Faire confiance à Dieu ou ne pas faire confiance? Voilà la question. Une autre manière de le dire, c'est le psaume 119, verset 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent, mais tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Dans le psaume 27, David affirme dès le premier verset sa confiance en Dieu. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Puis, un peu plus loin, il exprime ses difficultés. Mais à la fin du psaume, il dit, et ce sera ma conclusion. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. On peut rajouter que nous avons cette espérance jusque dans la vie éternelle. Dieu ne ment pas. Il l'avait promise avant tous les temps. C'est ce que nous lisons dans Tite au verset 1. L'apôtre Paul rajoute en écrivant aux Corinthiens, « Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Nous vivons un temps très particulier aujourd'hui. Toujours la guerre en Ukraine, ses conséquences économiques, le réchauffement climatique, les feux de forêt, les ressources qui s'épuisent. Peut-être vous l'avez entendu, nous vivons un crédit depuis le 28. C'est-à-dire que les ressources de notre planète sont épuisées et donc nous vivons un crédit. L'incertitude sanitaire et puis le reste. Parmi nous, quelques-uns affrontent des périodes exigeantes. Et d'autres vont peut-être affronter ces situations difficiles. Quelles que soient nos circonstances, nous pourrons crier au Seigneur, « Seigneur, sauve-moi !» Et si nous vivons des moments particulièrement difficiles, nous pourrons aussi nous raccrocher à ces quelques conseils. Soyons prudents, ne nous mettons pas en difficulté inutilement. Concentrons-nous sur ce qui est important. Notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. La vie vaut plus que l'habit. Mettons-nous en sécurité, sachant que nous pouvons nous appuyer sur le Tout-Puissant, dont la fidélité est inébranlable. Enfin, dans nos moments de doute, faisons appel à notre mémoire. Rappelons-nous les délivrances que Dieu nous a accordées. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mais nous sommes sûrs de voir la bonté de l'Éternel. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Je vous invite à un moment de réflexion, savoir aussi quelle est notre attitude, chacun, devant des situations difficiles, et que Dieu nous aide à nous tourner vers lui en toutes circonstances. Je vous invite à vous lever et à chanter « Mon secours est en toi ». Et c'est pendant aussi ce chant que les boîtes circulent. Il y a énormément d'annonces.